إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبإذن الله عز وجل ما زلنا نقرأ شرح الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، مع شرح فضيلة الشيخ محمد بن سعيد الرسلان حفظه الله تعالى. فنشرع اليوم في دراسة باب يطعم العبد مما يأكل. فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مروان بن معاوية عن الفضل بن مبشر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا ويقول: أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم من لبوسكم، ولا تعذبوا خلق الله عز وجل. فهذا الإسناد فيه الفضل ابن مبشر وفيه لين، والحديث صحيح بشواهده وقد مر. طيب، donc on passe au hadith du chapitre suivant, le chapitre 101, intitulé le maître, d'accord, nourrit son esclave de ce dont il se nourrit. Donc le hadith numéro 199, il dit le cheikh, l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, Abdullah ibn Maslama nous a rapporté et a dit. Donc Abdullah ibn Maslama, huwa Abu Abdurrahman القعنبي الثقة الحجة. D'accord. عبد الله ابن مسلمة أبو عبد الرحمن القعنبي qui fait partie des transmetteurs fiables, même très fiables, de hadith. قال et a dit: مروان ابن معاوية nous a rapporté selon الفضل ابن مبشر. Donc الفضل ابن مبشر, transmetteur de hadith, يعني qui comporte une certaine faiblesse. D'ailleurs, une certaine faiblesse. Et d'ailleurs, cette chaîne de transmission de ce hadith, yani à cause de lui, fait que elle a une certaine faiblesse, mais vu qu'il est, affirmé et appuyé par d'autres chaînes de narration, d'autres versions, yani fait que le hadith, il est valide et authentique. Bilhamdillah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit al-fadl ibn Mubashir, j'ai entendu Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des recommandations en faveur des esclaves, il recommandait le bien en leur faveur. Et il disait: nourrissez-les de ce dont vous vous nourrissez, et habillez-les de vos habits, et ne les et ne torturez pas ou ne faites pas de mal et ne châtiez pas la créature d'Allah tabarak wa ta'ala, طيب, ou la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. نعم. فما يؤخذ من هذا الحديث أولا للعبد المملوك ومن كان في حكمه أن يطعمه سيده مما يطعم، ولا يشترط أن يجلسه معه على المائدة، ولكنه يطعمه مما يطعم ولو على سبيل الانفراد، وأن يلبسه كذلك مما يلبس، وأن يعامله معاملة طيبة ترضي الله تبارك وتعالى، وفيها الإحسان إلى المملوك لأنه سلعة، ويلحق بالمملوك في الإحسان إليه من كان تحت اليد، حتى بهيمة الأنعام لا يجوز لأحد أن يعذب بهيمة الأنعام ويجيعها أو يهينها أو يطلقها لتؤذي الناس في طرقاتهم أو بيوتهم أو مزارعهم أو لتهلك في القفار، بل عليه أن يعلفها وأن يقدم لها الماء وأن يهتم بها أولا ليقضي حاجته التي هي معدة لها، ثانيا لتبرأ ذمة لأنه مسؤول عن ذلك، والرقيق من باب أولى، وكذلك الزوجة من باب أولى لوجوب نفقتها، فلا يجوز التقصير في شيء من ذلك، والنهي عن كل ما من شأنه أن يكون ضارا للمملوكين أو نحوهم ممن هم تحت يد المرء المسلم من ذكور الأمة وإناثها. Donc on tire de ce hadith le fait que il est un droit en faveur de l'esclave et en faveur de tous ceux qui possèdent le statut yani, de celui qui est esclave de quelqu'un ou qui est au service de quelqu'un. Que son maître le nourrisse de ce dont il se nourrit lui-même. D'accord? Ce n'est pas une condition yani, qu'il l'asseye avec lui autour de la table, mais il se doit de le nourrir de ce dont il se nourrit. D'accord? Même si l'esclave se nourrit et consomme son plat yani, de son côté tout seul. Il faut également que son maître le vêtisse de ce dont il se vêt, tayeb, et qu'il se comporte avec lui et qu'il le traite hein, d'une bonne manière qui satisfait Allah tabarak wa ta'ala. Donc il y a en cela la bienfaisance donc en faveur la bienfaisance en faveur de l'esclave, car il faut pas oublier que l'esclave yani s'achète et se vend, donc on se doit de bien le traiter. Et bien sûr sont concernés tous ceux qui sont sous l'autorité d'une personne, telles que les troupeaux, les animaux, les bêtes de cheptel, avec lesquelles il n'est permis à quiconque de faire du mal, de frapper, par exemple, ou de les affamer, ou de les humilier, ou de les laisser faire du mal, ou plutôt déranger les gens sur les chemins et les routes, dans les maisons, dans les champs, ou ne pas s'en occuper et de les laisser mourir hein, dans les déserts et les terres arides. Au contraire, la personne se doit de la nourrir, de l'abreuver, de s'en occuper de la meilleure des manières. Taïeb, premièrement pour, bien sûr, subvenir aux besoins de la bête et de secondo pour s'acquitter de son devoir. Car la personne, elle est responsable de ces créatures qui sont sous son autorité et sa responsabilité. Taïeb, donc à plus forte raison, l'esclave, lui, hein, il a ce droit-là. Et bien sûr, à plus forte raison encore, l'épouse a ce droit, et en est dû à l'obligation qui pèse sur son mari de dépenser pour elle. D'accord? Donc il sera interdit donc de négliger ce droit-là, hein, quelle que soit la façon, et il sera interdit aussi de faire quelque chose qui pourrait nuire, que ce soit aux esclaves ou aux autres créatures, parmi celles qui sont sous la responsabilité de la personne musulmane, yani que ces personnes soient des hommes ou des femmes. طيب. نعم. فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب التالي: باب هل يجلس خادمه معه إذا أكل؟ أو هل يجلس عفوا هل يجلس خادمه معه إذا أكل؟ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن السعيد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن إسماعيل ابن أبي خالد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه، فإن لم يقبل فليناوله منه. فهذا الحديث أخرجه المصنف في الصحيح، وأخرجه مسلم في صحيحه. نعم. جيد. Donc il dit ici l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le chapitre suivant intitulé Est-ce que le maître yani, fait asseoir son servant avec lui lorsqu'il mange? Donc il dit al-Bukhari rahimahullah ta'ala Musaddad ibn Musarhad nous a rapporté Yahya ibn Sa'id nous a rapporté selon Ismail ibn Abi Khalid يعني البجلي الأحمسي الثقة العلم transmetteur fiable de hadith très fiable selon son père يعني أبو خالد البجلي selon أبي هريرة رضي الله عنه selon le prophète عليه الصلاة والسلام qui a dit lorsque l'esclave ou le servant vient à vous avec la nourriture qu'il vous a préparée يعني qu'il l'asseye avec lui. Et s'il ne veut pas, eh bien qu'il lui donne à manger de cette nourriture ou de ce plat. Le hadith, l'auteur al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, l'a également rapporté dans un sahih, ainsi que l'imam muslim dans son sahih. Taïb. فما يؤخذ من الحديث أولا الحث على مكارم الأخلاق والمواساة في الطعام لا سيما في حق من صنعه أو حمله لأنه بذلك تسكن نفس الخادم وهذا كله محمول على الاستحباب. Donc, au titre de ce hadith, l'incitation à se doter des nobles comportements et de réconforter yani les servants à travers la nourriture. طيب. Surtout yani, par rapport à ceux qui l'ont préparé, à ceux qui ont préparé le plat et qui l'ont porté, et qui l'ont amené hein, à leur maître. Taïeb. Donc il y a dans cet acte-là le fait de d'avoir le meilleur des traitements envers eux et de les réconforter en cela, fait apaise yani, l'âme du servant. Et cela, encore une fois, comme on l'a dit dans les cours précédents, est de l'ordre de la recommandation. Ce n'est pas une obligation que le maître yani, fasse asseoir l'esclave ou le servant à ses côtés, etc. Mais yani, il est fortement recommandé qu'il le fasse. Taïeb. قال الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى قد سبق لك بيان ذلك. وكلا النصين يشير إلى عمل الإحسان إلى المملوك وفي المقدمة تقديم الكفاية من الطعام والشراب وكسوة ومسكن وخلق حسن وصدر منشرح والناس لآدم وآدم من تراب والسيد والمملوك يلتقيان في أصل واحد. طيب Il dit le Cheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullah ta'ala. Donc, on a vu déjà dans les cours qui ont précédé il y a des hadiths qui vont dans le même sens, Jayid, qui nous montrent donc qu'il faille faire preuve de bienfaisance envers l'esclave. D'accord? Et bien sûr, la priorité envers eux, c'est de leur donner ce dont ils ont besoin et ce qu'il va leur suffire comme nourriture, boisson, vêtements et logement. Et se doter envers eux également d'un bon comportement, hein, et d'un visage radieux et d'une bonne relation avec eux. Il dit le cheikh, les humains descendent de Adam, alayhi salam. Adam a été créé de terre. Donc, que ce soit le maître ou l'esclave, tous les deux, ils se rejoignent dans une seule et même origine, qui est le père des êtres humains, Adam, alayhi salatu wassalam. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو يونس البصري عن ابن أبي مليكة قال قال أبو محذورة كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه إذ جاء صفوان بن أمية بحفنة أو بجفنة يحملها نفر من عباءة فوضعوها بين يدي عمر فدعا عمر ناسا مساكين وأرقاء من أرقاء الناس حوله فأكلوا معه ثم قال عند ذلك فعل الله بقوم أو قال لح الله قوما يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معهم فقال صفوان أما والله ما نرغب عنهم ولكننا نستأثر عليهم لا نجد والله من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم. فهذا الحديث إسناده Sahih. Donc, on passe au chapitre, ou plutôt au hadith suivant, le hadith numéro 201. Il dit l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, Bishru ibn Muhammad nous a rapporté et a dit, Abdullah nous a rapporté. Donc ici, Abdullah, c'est Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah, a dit, Abu Yunus al-Basri nous a rapporté selon Ibn Abi Mulaika, rahimahullah, qui a dit, Abu Mahdoura a dit, j'étais assis auprès de Omar, radiallahu anhu, lorsque vint Safwan ibn Umayya avec yani, Jafna, yani, un grand récipient qui était porté par un groupe de personnes sur un vêtement appelé Aba'a. Puis, ils ont posé ce récipient-là devant Omar, radiallahu anhu. Omar appela alors des gens parmi les nécessiteux et les pauvres, ainsi que les esclaves, parmi les esclaves des gens autour de ce plat. Et ils ont mangé avec lui. Ensuite, il dit, dans le sens de sa parole, qu'Allah maudisse les gens qui refusent de manger yani, avec leurs esclaves. Yani, qui font preuve d'orgueil, hein, qui font preuve d'orgueil et de condescendance par rapport à leurs esclaves et qui refusent donc de manger avec eux par orgueil et arrogance. Il dit Safwan, par Allah, tabarak wa ta'ala, on ne refuse pas de manger par orgueil avec eux, mais yani, on préfère nos propres personnes sur eux dans le sens où il n'y avait pas Il n'y a pas assez de nourriture en fait. Il n'y a pas assez de nourriture, yani pour tous. Donc, on a privilégié nos personnes. Donc, on ne peut pas partager la bonne nourriture car il n'y en a pas assez par rapport à la petite quantité. Mais on a vu dans le hadith précédent, on a vu que même s'il n'y en a pas beaucoup, il était bien de donner ne serait-ce qu'une bouchée ou deux hein, à l'esclave pour justement lui faire honneur, hein, et le consoler, le réconforter par rapport au fait qu'il s'est fatigué à préparer le plat, etc., etc. Donc le hadith, sa chaîne de transmission, elle est authentique, alhamdulillah. Wa min ruwati hadha al-hadith, Abu Yunus al-Basri, wa huwa ibn Abi Saghira, wa huwa thiqa. Donc on a Abu Yunus al-Basri, ibn Abi Saghira, transmetteur fiable. ابن أبي مليكة هو عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة الثقة هنا ابن أبي مليكة عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة transmetteur fiable puis on a aussi أبو محذورة وهو مؤذن رسول الله عليه الصلاة والسلام et on a أبو محذورة qui donc était le muezzin du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Idan, ma'an al-kalimat al-jafna. Ma hiya al-jafna? Al-jafna hiya al-qas'adu al-kabira. Donc al-jafna, c'est quoi? C'est une grande qas'a. Qas'a, c'est un grand récipient, hein, qui sert à contenir la nourriture, le plat, ta'am. Hein? Taïb. On appelle ce récipient al-jafna. عباءة أو عباءة العباءة كساء مفتوح من قدام يلبس على الثواب على الثياب يلبس على الثياب. طيب donc on a le terme عباءة. عباءة c'est un vêtement qui est ouvert par devant, d'accord, et qui va se porter par-dessus les habits. Donc tu mets tes habits, Annie, avec lesquels tu sors, et par-dessus tu peux mettre la عباءة qui va donc envelopper tes habits et qui est ouvert devant. Taïeb. Naam. Donc c'est ce qui a servi à porter le plat, car il était très grand et très lourd, donc il fallait plusieurs personnes pour pouvoir le porter. Et ils ont utilisé donc ce vêtement-là qui est al-aba'a. Wa qawluhu lahallahu qawman et qabbahahum wa la'anahum. Donc ici le Omar radiallahu anhu, il a fait une dua contre les gens justement qui, par orgueil et arrogance, refusent de manger avec leur esclave. Il a dit, Laha Allah, Laha Allahu qawman, yani qu'Allah maudisse, et qu'Allah les enlaidisse. Yarghabuna an ariqa'ihim, et yu'ridhuna anhum, wa yanfiruna minhum. Ceux qui, justement, comme on a dit, se détournent de leurs esclaves, yani s'éloignent de eux par orgueil. Ils ne veulent pas s'asseoir avec eux, ne veulent pas manger avec eux, etc. Ma yu'khadhu min al-hadith, al-ihtimamu al-kabir min as-sahabati radiyallahu anhum bil-fuqara'i wal-masakin wal-ariqa, haythu tanawalu at-ta'ama ma'an 'ala ma'idatin wahida. Premièrement, on tire de ce hadith l'attention et le souci des sahaba radiyallahu anhum en faveur des pauvres, des nécessiteux et des esclaves. Car, yani, on voit que ils accordaient beaucoup d'importance à se nourrir, à prendre le plat ou le repas avec eux, ensemble, autour de la même tablée. Thaniyan, bughdhu as-sahaba, radiyallahu anhum, lirraghibin an saddi hajat al-muhtajin, wa qada'i hawa'ijihim al-lazima. Deuxièmement, le fait que les Sahaba, radiyallahu anhum, détestaient énormément ceux qui, justement, ne voulaient pas et refusaient par orgueil de subvenir aux besoins des nécessiteux. Et on parle des besoins qui sont obligatoires, d'accord? Qui sont obligatoires, mais également, comme Omar ici, le fait qu'ils détestaient même ceux qui ne voulaient pas manger avec eux, alors qu'à la base, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais seulement recommandé. D'accord, mais ceux qui le faisaient par orgueil et par arrogance, yani, par rapport à leur état de maître, etc. Non. Thalithan, ibda'u sukht as-sahaba radiyallahu anhum li'ulaika al-fa'ilin. Et troisièmement, ce qui rejoint un peu le deuxième, le fait que les sahaba donc manifestaient en plus, non seulement ils le détestaient, mais ils le manifestaient et exprimaient leur détestation envers ceux qui faisaient cela. Non. طيب فقال الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى قال هذا الأثر المروي عن عمر رضي الله عنه يؤكد ما سبق من النصوص ومنطلق منها ومتفق معها ويؤكد على الإحسان إلى الخادم الذي يقدم الطعام إما أن يجلس معك وإما أن تطعمه يعني نصيبه مما قدمه ولا يجوز أن ينصرف جائعا ومحتاجا إلى الطعام وأنت تستأثر به وإذا استأثرت به فأين تطبيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، مع الأحاديث والآثار التي تم إرادها فيما مضى. فرضوان الله على الخليفة الراشد عمر الفاروق رضي الله عنه، الذي ملأ الله قلبه رحمة بالضيف والمسكين، وظهر آثارها في حسن تصرف مع هذا الصنف من الناس وكل ما يستحق أن يرحم من خلق الله تبارك وتعالى. Donc cette histoire qui était rapportée de Omar radiallahu anhu vient souligner donc les textes qu'on a déjà vus précédemment et viennent donc dans le même contexte, le même registre. Ils viennent donc appuyer le fait qu'il faille être bienfaisant envers le servant, yani qui dont la tâche est de préparer le repas et de ramener le repas à son maître. Et donc il est important qu'il s'asseye avec toi, que tu le nourrisses d'une part de ce plat qu'il a préparé pour toi, et qu'il n'est donc pas permis que tu le laisses yani dans la faim ou dans le besoin par rapport à cette nourriture-là. Toi, tu sais qu'il est dans le besoin, tu sais qu'il a faim, et tu sais qu'il vient de préparer un repas, et il ressent dans l'envie par rapport à la consommation de ce repas. Tu n'as pas le droit de le délaisser et de monopoliser, tout ce plat-là et de ne rien lui en donner. Car si tu faisais cela, où serait alors l'application de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: vous ne croirez pas tant que vous n'aimerez pas pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Où serait l'application de cela, ainsi que les ahadith, ainsi que tous les athar, tout ce qui a été rapporté des salaf salih, rahimahumallah, qui viennent donc affirmer, accentuer cette recommandation, cette obligation même d'être bienfaisant envers les faibles, et donc ici en l'occurrence les esclaves. Donc qu'Allah tabarak wa ta'ala soit satisfait notamment de ce calife bien guidé et droit qui est Omar al-Farouq radiallahu anhu, qui avait donc un cœur qu'Allah tabarak wa ta'ala a rempli de rahmah, a rempli de bienveillance, a rempli de clémence envers les invités, envers les pauvres. Et donc ce hadith nous montre de manière évidente le bon traitement qu'il avait envers cette catégorie de gens qui sont donc les esclaves, les pauvres, les nécessiteux, et envers tous ceux également qui méritent, parmi les créatures d'Allah, qui méritent que l'on soit bienveillant, que l'on soit doux, que l'on soit compatissant par rapport à leur situation yani de faiblesse. Taïeb? Non. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا نصح العبد لسيده. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه له أجره مرتين. فهذا الحديث أخرجه المصنف في الصحيح وأخرجه مسلم في صحيحه. Donc on passe au chapitre suivant, le numéro 103, intitulé chapitre « Lorsque l'esclave fait preuve de nusr envers son maître ». C'est-à-dire lorsque l'esclave est sincère et, je dirais, intègre dans son travail pour son maître. D'accord ? Donc il dit ici, « Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, Ismail ». Ismaïl nous a rapporté et a dit: Malik m'a rapporté. Donc Malik ibn Anas, bien sûr. Malik ibn Anas. Rahimahullah. Selon Nafi'. Nafi' Mawla ibn Omar. D'accord? Nafi' Mawla ibn Omar. Selon Abdullah ibn Omar. Radiallahu anhu. Anhuma. que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, lorsque l'esclave fait preuve de nusr, yani fait preuve de loyauté, de sincérité, d'intégrité et de sérieux envers son maître, et adore Allah tabarak wa ta'ala d'une bonne manière, il adore son Seigneur d'une bonne manière, eh bien, il aura sa récompense deux fois. Il aura deux fois sa récompense. Taïeb. Donc ce hadith rapporté par donc l'auteur lui-même dans As-Sahih, ainsi que l'imam Muslim dans son Sahih. طيب فمن معاني الكلمات فله أجره مرتين أي مرة لنصح سيده ومرة لإحسان عبادة ربه جل وعلا. Donc lorsqu'il dit ici le prophète alayhi salatu wassalam, il aura sa récompense deux fois, c'est-à-dire une récompense une fois par rapport à son travail qui est loyal, qui est honnête et qui est juste en faveur de son maître, et une récompense pour sa bonne adoration de son Seigneur, tabarak wa ta'ala. D'accord? Donc une récompense par rapport au travail, au bon travail, honnête, bien fait, bien accompli pour son maître, et une récompense bien sûr par rapport à l'adoration d'Allah, tabarak wa ta'ala. An-nasiha, kalimatun jami'a, ma'naha, hiyazatu an-nushi lil-mansuhi lah, wa huwa iradatu salahi halihi. وإرادة تخليصه من الخلل وتصفيته من الغش. طيب. Donc le terme nasiha, que يعني, presque tout le monde traduit par le conseil. En vérité, le conseil, c'est juste une des facettes, des sens de an-nasiha, que peut avoir le mot an-nasiha. An-nasiha, déjà, c'est un mot, bien sûr, c'est un mot qui est jami'a, qui est général et qui englobe beaucoup de choses. D'accord? Donc, le sens de an-nasiha, à la base, hiyazatu nushi lil mansuhila. Le fait de faire preuve de sincérité, de bon comportement, de sérieux, en faveur de la personne pour qui on fait preuve de nous. De nous. On l'appelle al-mansuhu lah. Al-mansuhu lahu. D'accord? Celui qui fait preuve de nous, on dit qu'il est nasih. Al-nasih. Et celui pour qui on fait preuve de nous, on dit qu'il est al-mansuhu lahu. Voyez? Donc, al-nasiha, c'est le fait de vouloir le bien pour quelqu'un. D'accord? Le bien pour quelqu'un. La réforme de son état. Le fait de vouloir, et quand je dis quelqu'un, ça peut être quelque chose aussi. Le fait de vouloir faire une chose d'une manière complète, sans défaut, sans déficience, sans négligence, d'accord? Et d'épurer ce travail ou cet acte-là de toute trahison. D'accord? Donc ici, l'esclave, lorsqu'il fait preuve de nasiha, de nusr envers son maître, eh bien, c'est le fait qu'il fournisse un travail pour lui, un travail qui est honnête, dans lequel il n'y a aucune trahison, aucune tromperie. Il y a un travail qui est en plus complet, qui est bien fait, dans lequel il n'y a pas de défaut. D'accord? Donc ce travail-là fait que l'esclave a fait preuve de nusr envers son maître. لأن المادة اللغوية في استعمالها تكون لسد الخلل كما تقول نصحت الثوب إذا خطه. Pourquoi? Parce que il faut revenir à la langue arabe. Dans la langue arabe, la racine de ce mot, elle est utilisée notamment pour exprimer le fait de réparer un défaut. De réparer un défaut. D'accord? Donc la racine, c'est-à-dire le noun, le sod et le ha. Nasaha. D'accord? On dit par exemple, nasahtu al-thawb. Al-thawb, c'est le vêtement. D'accord? Donc j'ai fait preuve de nush par rapport aux vêtements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai réparé les vêtements, j'ai recousu. D'accord? Quelqu'un qui recoud un vêtement, yani qui a sur lequel il y avait un trou par exemple qui était déchiré et qui le prend pour le recoudre, eh bien on dit qad nasaha thawbahu. D'accord? Nasaha thawbahu. Il a certes recousu son vêtement. On a utilisé le verbe nasaha. وتكون أيضا لتخليص الشيء من شوائبه كما تقول نصحت العسل نصحت العسل أي خلصت العسل من الشوائب خلصت العسل من الشوائب et ça peut vouloir dire aussi le fait de purifier quelque chose et d'y enlever les impuretés par exemple c'est pour ça que l'on peut dire par exemple نصحت العسل العسل c'est quoi c'est le miel Donc, nasaftu al-asal, c'est-à-dire, j'ai purifié le miel, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dedans, comme impureté, etc., d'accord? Pour le purifier et le rendre limpide et clair, par exemple. D'accord? Donc, on voit ici la racine de ce mot, qui est nasaha. D'accord? Idan, nasaha al-sayyidi, ay akhlas al-khidmata lahum. Donc, lorsque l'esclave fait preuve de nusr envers son maître, ça veut dire qu'il fournit un esclave qui est complet, qui est bon. Qui n'a pas de défaut, un bon travail, et qui est dénué, encore une fois, de tromperie, de trahison, d'accord? De mensonge. Voyez? Thumma ahsana ibadata rabbihi, ay ata bil ma'mourat wa ijtanaba al manhiyat, et qui fait preuve d'excellence également dans l'adoration de son Seigneur, c'est-à-dire qui obéit à Allah tabarak wa ta'ala, qui accomplit tout ce qu'Allah jalla wa ala lui a ordonné et qui s'éloigne de tout ce que Allah tabaraka wa ta'ala lui a interdit. Ma yukhadhu min al-hadith. Awalan fil hadith fadilatun lil mamlouk al-nasih li sayyidi al-qa'imi bi ibadati rabbihi subhanahu wa ta'ala. Premièrement, on tire de ce hadith le mérite de l'esclave qui est nasih envers son maître. Donc on a vu le terme nasih, nasaha, par rapport ici entre l'esclave et le maître. Donc on voit le mérite de cet esclave. Et également de celui qui, l'esclave qui adore Allah tabaraka wa ta'ala, yani également de la bonne manière, comme il se doit. Thaniyan, bayanu anna lahu ajrayn li qiyamihi bil haqqayn wal inkisarihi bil riq. Taïeb. Et on a vu également, deuxièmement, que l'esclave avait deux récompenses. D'accord? Deux récompenses en vertu du fait qu'il a honoré ici les deux droits. Le droit de son maître et le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala. D'accord? Le droit de son maître, le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et du fait donc qu'il a honoré le droit et son état d'esclave, non seulement l'esclave envers son maître, mais aussi l'esclave envers Allah tabaraka wa ta'ala à travers l'adoration pour Allah subhanahu. Thalithan, ima'un ila anna al-abda la jihad alayh wa la hajja fi hal al-ubudiyya wa in sahha dhalika minhu Troisièmement, ce hadith nous fait comprendre une chose, c'est que l'esclave, contrairement aux gens qui sont libres, n'a pas l'obligation, yani, de la lutte, de le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala, ni du pèlerinage dans son état d'esclave. Sauf si, bien sûr, son maître le lui permet. Et donc, s'il le fait avec la permission de son maître, son pèlerinage, bien sûr, et sa lutte dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala sera acceptée. Inch'Allah. Non. Hein?
Et s'il ne sait pas?
Il n'a pas de péché. Car cela ne lui est pas obligatoire dans cet état. D'accord? Classe? Alhamdulillah. فنكتفي بهذا إن شاء الله. والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته